Que de bonnes nouvelles en provenant d'Israël et du monde juif, mais pas seulement de bonnes nouvelles, également de la bonne musique et des invités. Et c'est tout de suite. Bonjour et shalom à tous, et évidemment ravi de vous retrouver en ce début d'année 2021. Alors tous mes vœux pour une année la meilleure possible. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien d'étudiants israéliens qui ont remporté la première place au championnat du monde de mathématiques, du Soudan qui a signé les accords d'Abraham, d'un gigantesque accord militaire signé entre Israël et la Grèce, des Juifs d'Inde et d'un hôtel, le Six Senses Shacharit, un des nouveaux hôtels les plus attendus en Israël de 2021 et qui se trouve dans les sables du désert du Negev à hauteur de la vallée de la Arava, pour ceux qui connaissent. Alors va-t-on vers des entraînements communs entre les armées de l'air d'Israël et des Émirats? Benjamin Netanyahou et le roi du Maroc se sont entretenus. Le Centre Chine Israël a célébré de son côté un an d'innovation scientifique. Kaddish pour un violoniste israélien, Ivri Glitlis, un violoniste tout à fait extraordinaire. Nouveau bâtiment pour l'Académie de la langue hébraïque en Israël. Et sachez que plus de 50 000 Israéliens ont déjà visité les Émirats Arabes Unis. Voilà, avant de développer tous ces titres, je vous propose une chanson avec Avi Toledano.
זיו השדה שאספנו אז אור הארץ נושאת יבולה ואור יפים הם מלילות בכנען תרם השמש עולה עוד רכבת חוצה שם פרדס ירוק חסידה עוד רוגעת מעל ועוד נוסע הערפל בעמק בין הצליחה ועוד נשמע אין בלבבות כואב לו סמר ישן ומחול וגם ההורה ההיא עם ההי קולה עוד עולה קולה לרדה וגם ההורה ההיא עם ההי שירה ומלא ליבי ועולם שעזבנו אז אור הארץ נושאת יבולה ואור יפים הם מלילות בדנן דרם השמש עולה
Avi Toledano qui avait remporté en 1982 avec cette chanson le Grand Prix de l'Eurovision. Alors, on démarre par une très bonne nouvelle. Des étudiants israéliens ont remporté la première place au championnat du monde de mathématiques. L'équipe israélienne qui a été entraînée par l'Université de Tel Aviv a donc remporté cette première place. C'est ce qu'a annoncé l'établissement tout à fait récemment. Et cette compétition a réuni près de 96 universités du monde entier et s'est déroulée en ligne. 6 étudiants ont concouru sous la bannière de l'État d'Israël, Shfor Regavim, Noam Tashman, Roma, Lior Adassi, Omer Boyan, Roy Sinai et Oat Scheinfeld. La compétition a été rude, nous étions pressés par le temps pour répondre à toutes les questions, mais je suis heureux d'avoir atteint les objectifs que nous nous étions fixés, s'est enthousiasmé Shfor Egavim. Sur le plan personnel, cette victoire est une très grande réussite, mais j'ai surtout apprécié le défi de devoir résoudre des exercices de mathématiques d'un très haut niveau, a-t-il ajouté. Je suis fier de nos excellents étudiants qui ont fait honneur au pays et à l'université, a félicité le responsable de l'équipe, le professeur Elon Solal. Les étudiants israéliens ont rivalisé avec les meilleurs jeunes cerveaux du monde entier et ont démontré des connaissances très impressionnantes ainsi que des capacités de créativité et d'improvisation qui leur ont permis de résoudre les équations les plus complexes. Je suis convaincu que dans les années à venir, ces étudiants talentueux mèneront l'économie et le monde universitaire israélien vers de nombreux succès, a-t-il conclu. Le Soudan a adhéré officiellement aux accords d'Abraham. Le gouvernement soudanais donc a officiellement annoncé qu'il adhère à ces accords. Le ministre soudanais de la Justice a signé au bas de la même déclaration déjà signée par les Émirats arabes unis et le Bahreïn. Du côté américain, c'est le secrétaire au Trésor, Steve McGreen, qui a signé. La Maison-Blanche avait tenté, je vous le rappelle, d'organiser une cérémonie officielle de signature à Abu Dhabi en présence du président soudanais Al-Burhan et du premier ministre Netanyahou, qui aurait effectué son premier voyage officiel dans les Émirats, mais le confinement en Israël et la situation tendue entre le Soudan et l'Éthiopie ne l'ont pas permis. Le ministère israélien de la Défense a signé un accord d'une ampleur jamais atteinte avec le ministère grec de la Défense. Ce contrat d'un montant de 1,68 milliard de dollars a été obtenu par la compagnie Elbit Systems après un appel d'offres international lancé par le ministère grec. Il comprend notamment la construction et le fonctionnement d'un centre d'entraînement de vol pour l'armée de l'air grecque sur le modèle des centres d'entraînement qui existent en Israël avec des simulateurs et toute la logistique. Le contrat inclut aussi la vente d'avions d'entraînement et la rénovation des appareils déjà en utilisation. Le centre d'entraînement sera géré par Elbit Systems Limited durant 20 ans. Le ministre israélien de la Défense, M. Benny Gantz, a souligné les excellentes relations qui règnent entre les deux pays et particulièrement entre les deux armées, ainsi que les intérêts communs d'Israël et de la Grèce pour la stabilité dans la région. Concernant cet accord, il a souligné qu'il créera des centaines d'emplois tant en Grèce qu'en Israël. Alors, les miracles se sont multipliés lors de la récente période lumineuse de Hanouka. Après la décision du Maroc de renouer pleinement avec Israël, l'arrivée de plusieurs centaines de Juifs éthiopiens en Israël, événements majeurs qui ont suivi de peu la signature des accords d'Abraham avec les Émirats et le Bahreïn et la décision du Malawi d'installer son ambassade à Jérusalem. Voici qu'en cadeau d'allumage de la sixième bougie, l'État juif a accueilli à l'aéroport Ben Gurion au son de la tikfa de 256 Bnei Menaché des Juifs du nord-est de l'Inde à la frontière avec la Birmanie. Une arrivée qui témoigne des liens très forts qui unissent depuis de longues années Israël et l'Inde, un grand pays où des communautés juives se sont installées depuis très longtemps. Le rapprochement entre l'Inde et Israël s'est accéléré en fait en 2016. Cette année-là, en visite en Israël, la ministre indienne des Affaires étrangères avait déclaré « L'Inde attache la plus haute importance au développement des relations bilatérales avec Israël. » Dans les années 1990, le volume annuel des échanges entre les deux pays était de 200 millions de dollars. Il passa en 2016 de 4,5 milliards de dollars. Les choses ont continué d'aller dans le bon sens. Depuis, la coopération entre l'Inde et Israël est aussi militaire, il faut le savoir. Depuis son accession au pouvoir, le premier ministre indien, M. Narendra Modi, s'est révélé être un admirateur et un ami d'Israël. Il n'a pas hésité, par exemple, à déclarer « L'Inde est le seul pays où l'antisémitisme intégrant de notre société n'a jamais été autorisé à se manifester et où les Juifs n'ont jamais souffert et ont vécu comme une partie intégrante de notre société. » Pardon. À la même époque, on apprenait que 43 Bnei Menaché venus de l'état du Manipur au nord-est de l'Inde avaient fait leur alia. Plus de 700 Bnei Menaché ont rejoint Israël en 2016. Ils y ont retrouvé leurs 3000 frères qui, pour l'essentiel, vivent à Kiryat Arba et à Bethel. Il y a peu, donc, ces 256 nouveaux arrivants. Les Bnei Menaché sont tenus de procéder à une forme de régularisation rabbinique avant d'être reconnus comme juifs à part entière. Mais qui sont donc les juifs d'Inde ? Il y avait environ 35 000 juifs aux Indes lors de la création de l'État d'Israël. En 2020, ils ne sont plus qu'environ 3 000, dont 80 % vivent à Bombay. On en trouve également à Calcutta, Cochin et à New Delhi. Si l'Inde, avec ses 800 millions d'habitants, est la plus grande démocratie de la planète, c'est un fait, comme le rappelait son Premier ministre, qu'elle n'a jamais connu comme l'Europe ou le monde arabo-musulman de tradition antisémite. Certes, sous l'influence des Arabes en général et des Palestiniens en particulier, la presse indienne n'a pas toujours été tendre à l'égard d'Israël ces dernières années, mais on est loin de ce que l'on peut observer en Europe ou en Orient musulman. Par ailleurs, la renaissance en 1948 d'un État juif a entraîné l'alia d'un nombre conséquent de juifs indiens. Si de nos jours la plupart des juifs indiens se retrouvent dans le secteur tertiaire, fonctionnaires, employés des chemins de fer, cadres municipaux, ou s'ils sont encore agriculteurs et commerçants, les réussites individuelles ont été nombreuses au cours des ans. Ainsi, le général Jacobs, qui commanda l'armée indienne dans la guerre contre le Pakistan, était juif, tout comme le commandant de la marine indienne dans les années 70, sans oublier bien sûr le grand poète indien Nissim Ezekiel, son frère, l'économiste Hanan Ezekiel, qui dirigea l'Economic Times, l'écrivain Bouni Rouben ou encore le zoologiste David Reuven. En 1884, deux juifs, Elias Shalomé Soubaï et Elia Ezra, siégèrent à l'Assemblée législative du Bengale et en 1926, le shérif de Calcutta s'appelait Sir David Ezra. On considère généralement que la communauté juive indienne est composée de trois entités distinctes, elles-mêmes découpées en subdivisions plus ou moins nettes. Ce sont les Bnei Israël, les Juifs de Cochin et ce qu'on appelle les Irakiens. À ces trois grands groupes, il convient d'ajouter les Juifs chinois de la Sam et les néo-Juifs mongoloïdes du Mizoram et de sa capitale Aizal, appelée aussi Mizos ou Kuki, qui se considèrent comme descendants de la tribu de Menaché, à l'instar des Juifs de Burma, de l'État de Manipur et de celui de Nagaland, qui sont apparentés aux Karen de Birmanie. Les Bnei Israël, que l'on surnomme Chanoar Telli, c'est-à-dire les presseurs d'huile du samedi, prétendent que leurs ancêtres de la tribu de Reuven ont quitté la Galilée lors des persécutions d'Antiochus Épiphane, leur embarcation ayant fait naufrage dans l'océan Indien. Les Juifs de Cochin disent aussi venir de la Terre Sainte qu'ils auraient quittée au 1er siècle après la destruction du second temple de Jérusalem. Les Juifs d'Irak, venus d'Irak, de Syrie, d'Afghanistan et d'Aden, désignés sous le terme générique de Baghdadi ou Iraki, vinrent en Inde au XVIIIe siècle dans le sillage du grand homme d'affaires David Sasson, surnommé le Rothschild de l'Orient. Ils se distinguent par une peau beaucoup plus claire que celle de leurs corréligionnaires. Longtemps, les trois sous-ensembles ont vécu sans aucun contact les uns avec les autres. Synagogues, mikvés, centres communautaires, organisations juives de tous ordres continuent de fonctionner en Inde, mais la démographie est éloquente et bien qu'on assiste au retour au pays natal de certains juifs qui se disent déçus par Israël, la population juive s'amenuise. Si certains signes sont encourageants, comme par exemple le premier mariage juif depuis 50 ans a été célébré à New Delhi en novembre 2012, à l'opposé, le cimetière juif de Panvel, à 20 km de Bombay, est à l'abandon, livré aux squatters, et la synagogue paradésie de Cochin est devenue un entrepôt pour fruits de mer. En novembre 2008, des attentats avaient fait 170 victimes à Bombay, parmi eux un couple rabat, Gabriel et Rivka Holzberg, et quatre visiteurs juifs. Le rabbin d'Israël Kozlovski et son épouse, qui dirige la communauté Lubavitch de Bombay, ont décidé en février 2016 de prénommer Gabriel leur nouveau-né en souvenir de Gabriel Holzberg. C'était Sarit Khadat. Je voudrais vous parler maintenant d'un hôtel, un nouvel hôtel parmi les plus attendus de 2021, le Six Senses Shacharot. Début juin 2021, les premiers hôtes poseront enfin leurs valises dans les sables du désert du Negev à la hauteur de la vallée de l'Arava. C'est ici que, perchés sur une falaise, les 58 suites et villas du Six Senses, inspirées des habitations de la communauté nabatéenne qui occupait la région il y a plus de 2000 ans, englobent un paysage biblique. Shacharot, qui signifie le moment juste avant l'aube, traduit bien l'ambiance du lieu mentionné sous le nom de Midian dans la Bible et le Coran. Pour se fondre dans cet environnement grandiose et réduire l'impact écologique, le Six Senses est construit à partir de roches locales enduites de pigments naturels. Sa décoration intérieure évoque la route de l'encens qui, des ports méditerranéens à l'Inde, traversait le désert. Les portes intérieures ont été taillées dans du teck récupéré sur des bateaux, des maisons et des passerelles désaffectées, tandis qu'une flore indigène aiguera ses jardins. Le restaurant conviera à vivre sous une tente une expérience gastronomique bédouine, spa, piscine intérieure et extérieure, cours de yoga, cinéma en plein air, kids club et safari à chameaux agrémenteront le séjour. L'hôtel se situe sur un domaine de 18 hectares dans la vallée de l'Arava, juste au sud du désert du Negev. Des jardins potagers biologiques sont prévus, ainsi qu'une ferme de chameaux en activité, une première pour Israël, peut-être pour le monde. Si la plupart des fans de la marque Six Senses seront sans doute attirés par son vaste spa, il y a aussi un fort formidable potentiel pour explorer le désert, notamment le parc Timna, site de la mine de cuivre du roi Salomon et qui abrite des formations géologiques extraordinaires. Il est à noter que Petra, en Jordanie voisine, 180 km environ 3 heures de route, sera proposée comme une excursion d'une journée. Alors maintenant, je vous transmets ce que j'ai reçu d'un ami. Voici la vraie raison pour laquelle Israël est le premier pays au monde à avoir reçu des vaccins avant le reste du monde. 60 000 Juifs sont restés à Thessalonique en Grèce à la veille du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Une communauté juive vivante et dynamique, la plupart des porteurs du port de Thessalonique étaient juifs. Le port de Thessalonique a même été fermé samedi, de grands rabbins y vivaient également. Adolf Hitler a pris d'assaut la Grèce pour sécuriser son aile sud avant de lancer la fameuse opération Barbarossa et une offensive contre la Russie. Sur 60 000 juifs de Thessalonique, environ 50 000 ont été assassinés à Auschwitz-Birkenau en très peu de temps. Cette glorieuse communauté a été instantanément détruite et peu ont survécu. Parmi les survivants se trouvait la famille Bourla. Après la guerre de 1961, un membre de la famille Bourla est né et ils l'ont appelé Israël Abraham, Albert. Alors, le fameux Albert a grandi et a étudié la médecine vétérinaire. Il a obtenu son doctorat en biotechnologie de la reproduction de l'école vétérinaire à l'université Aristote à Thessalonique. À 34 ans, il a déménagé aux États-Unis. Il épousa une femme juive nommée Myriam et eut deux enfants. Aux États-Unis, Bourla a été intégré dans l'industrie médicale. Il a progressé très rapidement et a rejoint Pfizer, où il est devenu le Head of Global Vaccine. À partir de là, le chemin est court pour sa nomination au poste de PDG de Pfizer en 2019. Au cours de l'année, M. Bourla a dirigé les efforts de l'entreprise pour trouver un vaccin contre le corona dans le cadre de super efforts. Le projet de vaccin qui sauvera la vie de milliards de personnes dans le monde a été dirigé par un juif, fils de survivant de la Shoah de Thessalonique. Son vaccin atteindra également l'Allemagne, où des dizaines de milliers d'Allemands sont morts de la peste corona. Le vaccin devrait également sauver la vie de dizaines de millions d'Allemands. Certains sont d'anciens nazis, leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants. Le fils de M. Bourla, dont la famille a été détruite pendant la Shoah, sauve les familles de ceux qui ont détruit sa famille, en fait. Et c'est pourquoi Israël est en train de devenir le premier pays à recevoir le vaccin, à la mémoire des grands-parents d'Albert, en mémoire de sa famille, en mémoire de notre famille, à la mémoire du peuple juif effacé lors de la Shoah. Et maintenant, en lisant cette histoire vraie et étonnante, pensez au nombre de familles Bourla qui ont brûlé et sont partis en flammes des crématoires de Birkenau et de tous les camps d'extermination qui contenaient tous ces 6 millions de Juifs qui ont été assassinés durant la Shoah. Combien de professeurs, de scientifiques, de mathématiciens et d'autres talents auraient pu sauver ce monde de tant de désastres que des gens pervers ont amenés dans ce monde, tout comme les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Fiers de faire partie de ce peuple incroyable qui, même les jours difficiles comme nous les vivons cette année, sait comment renaître de la poussière et des cendres et être à nouveau une lumière pour le monde.
Avinu Marquis.
Barbara Streisand avec Avinu Malkenu. L'ancien numéro 2 du Mossad, Ram Ben Barak, a publié cette semaine un article d'opinion sur le rétablissement des relations entre Rabat et Tel Aviv. Sous l'intitulé « Le roi Mohamed VI du Maroc ouvre la voie à la paix », Ben Barak affirme que l'État d'Israël a toujours considéré le Maroc comme une nation arabe modérée qui a une immense influence dans le monde arabe. L'État d'Israël a toujours considéré le Maroc comme une nation arabe modérée qui a une immense influence dans le monde arabe et l'estime du roi Mohamed VI parmi les dirigeants mondiaux, ainsi que son statut spécial au sein de la Ligue arabe, constitue un énorme avantage politique et stratégique, a-t-il écrit. Considérant que la signature récente de l'accord de normalisation entre Israël et le Maroc a constitué une avancée historique, l'ancien numéro 2 du Mossad assure qu'il ne fait aucun doute que cette percée aura une multitude d'implications géostratégiques dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'agriculture, des problèmes de l'eau et de l'énergie et bien sûr dans les domaines de la sécurité et de la politique. M. Ben Barak, actuellement membre de la Knesset, révèle en outre que la normalisation des relations d'Israël avec le palais royal est un travail en cours depuis de très nombreuses années. Ces efforts sont devenus publics lorsque le défunt Premier ministre et ministre de la Défense Yitzhak Rabin s'est rendu ouvertement au Maroc, une visite couronnée par l'ouverture de bureaux de liaison à Tel Aviv et à Rabat. Le bureau de liaison de Tel Aviv a ensuite été fermé pour des raisons politiques, à savoir le déclenchement de la deuxième intifada et le conflit israélo-palestinien, mais les deux pays ont continué à entretenir des relations non officielles pendant les années intermédiaires. Pour lui, le fait d'avoir des liens avec le roi Mohamed VI en tant que leader du monde arabe modéré aura un impact direct sur la sécurité nationale de l'État d'Israël et renforcera la position du pays vis-à-vis des autres pays arabes. Cette stratégie, ajoute-t-il, continuera d'avoir un impact positif, y compris la manière dont le Maroc permet à tous ses citoyens la liberté de culte, quelle que soit leur religion. De plus, poursuit M. Ben Barak, le roi entretient des relations particulièrement chaleureuses avec la communauté juive du pays et les plus d'un million d'Israéliens dont les familles sont originaires du Maroc ont de bons souvenirs et un désir ardent pour les maisons qu'ils ont laissées derrière eux. Et de souligner que contrairement à ses relations avec d'autres pays arabes, le Maroc partage un lien étroit avec Israël et les deux nations ont de nombreuses valeurs communes qui les ancrent dans leurs relations de longue date. Il indique par ailleurs avoir eu l'assurance à travers de hauts responsables marocains que le roi Mohamed VI est vraiment l'établissement par est vraiment la personne qui pourra établir une relation vraiment pacifique, chaleureuse et courageuse avec Israël et son leadership unique mènera à une relation inébranlable avec Israël et à la possibilité de rétablir les relations diplomatiques dans un proche avenir. Il considère également que l'ordre donné par le roi en mai 2018 de rappeler l'ambassadeur du Maroc en Iran et d'expulser l'ambassadeur d'Iran à Rabat était un signe clair du sérieux du souverain dans la lutte contre le terrorisme mondial. De même, conclut-il, il ne faut pas non plus oublier que le Maroc s'est engagé sincèrement à promouvoir la paix dans la région et à mettre un terme au conflit israélo-palestinien dans le cadre d'une solution à deux États, une option qui serait, selon lui, inexcusable de ne pas mettre en œuvre. Ben Barak est né et a grandi à Nahalal, en Israël, dans une famille juive. En 1976, il a rejoint l'armée israélienne et a servi comme soldat de combat et comme officier dans l'unité de commando Sayeret Matkal. Dans son dernier poste, il a servi comme commandant de la division antiterroriste jusqu'à sa libération en 1981. En 1984, il rejoint le Mossad. En avril 1991, il a été arrêté à Chypre avec trois autres agents du Mossad, se faisant passer pour des touristes lors de l'opération d'installation de dispositifs d'écoute à l'ambassade d'Iran à Nicosie. Ils ont été reconnus coupables d'intrusion, condamnés à une amende et renvoyés en Israël. De 2009 à 2011, il a été chef adjoint du Mossad. Il a été prêté au FDI et a servi de coordonnateur des opérations spéciales. Il a par ailleurs été conseiller de l'ambassade d'Israël à Washington et chercheur invité au Saban Center for Middle East Policy de la Brookings Institution. Le 15 janvier 2018, il a annoncé qu'il rejoignait le parti Yesh Atid. De novembre 2018 jusqu'à son entrée dans la politique israélienne en avril 2019, il a été membre du conseil consultatif de Shibumin, une société internationale de renseignement commercial qui a été fondée par des vétérans de la communauté du renseignement israélien. De plus, à partir de janvier 2018, il a été président du conseil d'administration de High Minders. Monsieur Ben Barak est par ailleurs membre de la Knesset pour le parti Yesh Atid, et cela depuis avril 2019.
Critique ma vie, mais on aime ma compagnie. À tout instant, mon cœur s'attache, mon cœur joue cache-cache. Même quand je n'ai pas un dollar, je chante et j'oublie mon cafard. On m'a surnommé l'Oriental, car moi je suis sentimental. Et pourtant je ne fais pas de mal, on m'a surnommé l'Oriental. Chanson triste ou chanson gaie, moi je chante ce qu'il me plaît. C'est la musique qui m'affole, musique orientale ou espagnole. La chanson c'est comme l'amour, ça fait rêver la nuit, le jour. On m'a surnommé l'Oriental, tellement je suis sentimental. Et l'on m'appelle l'Oriental, le brun haut, regard fatal. Et l'on m'appelle l'Oriental, car moi je suis sentimental. Et pourtant je ne fais pas mal. On m'a surnommé l'Oriental.
Enrico Macias avec l'Oriental. Je viens de vous parler du Maroc. Eh bien, on continue. En effet, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le roi Mohamed VI du Maroc se sont entretenus au téléphone. Les deux dirigeants se sont mutuellement congratulés pour la normalisation des relations entre les deux pays. De l'avis du bureau du premier ministre israélien, la conversation a été chaleureuse et amicale et elle s'est déroulée en quatre langues, à savoir le français, l'anglais, l'hébreu et l'arabe. Un communiqué émanant du palais royal a indiqué que le roi s'est féliciter de la réactivation des mécanismes de coopération et de la reprise de contacts réguliers dans le cadre de relations diplomatiques pacifiques et amicales. Le roi Mohamed VI a également salué le lien chaleureux entretenu par les Juifs du Maroc avec les expatriés qui vivent en Israël. Netanyahou a d'ailleurs invité le roi du Maroc à effectuer une visite officielle en Israël. Il lui a aussi fait part de l'immense enthousiasme au sein des Israéliens originaires du Maroc à l'annonce de la normalisation des relations entre Israël et le Maroc. Il y a quelques jours, Israël et le Maroc ont déjà signé 4 accords bilatéraux, liaison aérienne directe, gestion de l'eau, connexion des systèmes financiers, et exemption de visa pour les diplomates. Dans une deuxième étape, les bureaux de liaison entre les deux pays seront rouverts. Va-t-on vers des entraînements communs entre les armées de l'air d'Israël et des Émirats? En tout cas, le commandant de l'armée de l'air israélienne, le général Amicam Norkin, a évoqué la vente d'avions furtifs F-35 aux Émirats arabes unis lors d'un bilan de l'année 2020. Il a réfuté les arguments de ceux qui se sont exprimés contre cette vente et a indiqué qu'il y aurait probablement des entraînements communs entre les armées de l'air des deux pays avec ce type d'avion. Il a d'ailleurs rappelé que les deux armées de l'air s'étaient déjà entraînées ensemble l'an passé dans le ciel grec. Le général Norkin a souligné que les accords de normalisation entre Israël et les pays du Golfe auront une influence géostratégique dans la région et renforceront donc la stabilité. Le commandant de l'armée de l'air a toutefois précisé qu'Israël conservera la supériorité militaire qualitative dans toute la région et notamment dans les cieux, grâce surtout au niveau technologique atteint par les industries militaires israéliennes, tout comme les responsables politiques et le chef d'état-major. Le général Amicam Norkin a rappelé que Tsahal ne permettra pas à l'Iran de s'installer aux frontières d'Israël, ni d'ailleurs de fournir des missiles de haute précision au Hezbollah installé au Liban. le roi de la clarinette, Györa Feinman, avec des chansons pour Shabbat. Alors de la clarinette, on va passer au violon avec un kaddish pour Ivri Gitlis, un violoniste extraordinaire. Le violoniste israélien, dont la carrière a débuté très tôt, est devenu rapidement l'un des artistes les plus appréciés de son temps. Il a su profiter de son parcours et de son talent exigeant pour toujours renouveler. Il est décédé ce 24 décembre à Paris à l'âge de 98 ans. Quand je reste quelque temps sans le toucher, je me sens mal. Je me sens coupable de passer tant de moments à faire autre chose. À plus de 90 ans, le vieil homme, chevelure longue et grisonnante, n'avait jamais perdu de son amour de l'instrument. Ivri Gitlis, célébrissime musicien, est donc mort à Paris avec plus de 90 ans aux mains d'un violon, nous précise l'un de ses fils, David Gitlis. Magnifique interprète de Berg, Beethoven, Mendelssohn, Bach, Paganini et de la musique contemporaine, il aimait le jazz ou côtoyait les pop stars de John Lennon à Mick Jagger. Ivri Gitlis était sans équivoque la représentation des grands violonistes pour le grand public. Pendant des années, ses passages sur les plateaux de télé ont fait de lui un personnage incontournable du classique, apprécié et pédagogue. Toute sa vie, l'instrument l'a accompagné sur toutes les scènes, tous les pays, avec tous les artistes. Il faut dire que si Ivri Gitlis n'est pas né avec un violon dans les mains, personne n'est musicien dans son entourage, il va très rapidement en réclamer un. Alors qu'il n'a que 6 ans, sa famille et ses proches se cotisent pour lui offrir le précieux instrument et c'est le début d'une liaison tout à fait fusionnelle. Les premières notes, les premières leçons et très vite on repère chez le jeune Ivri un talent insoupçonné. L'enfant donne son premier concert à l'âge de 7 ans en Palestine, là où il est né en 1922. Bronislav Huberman, le futur patron du Philharmonique d'Israël, veille au progrès de l'enfant et très vite, il lui conseille de prendre la direction de l'Europe. Après une semaine de traversée de la Méditerranée en 4e classe, Ivri arrive enfin à Marseille et il n'a alors que 10 ans. À 12 ans, il entre au Conservatoire de Paris, rue de Madrid, mais en ressort un an plus tard, ce n'était pas fait pour lui. Vient alors une succession hachée d'accidents de parcours, comme il le décrit au journal Le Figaro en 2012. Et parmi ces péripéties, bien sûr, il y a la guerre. Ivri Gitlis traverse alors la Manche pour retrouver le violoniste Karl Flech qui lui donnera des cours et le fera rencontrer Jacques Thibault et Georges Enesco. Ces deux-là deviendront ses mentors. Mais l'effort du conflit mondial le pousse à l'usine où il travaille à la production de munitions. Le violon, pendant ce temps, n'est jamais loin. Il donne ses premiers récitals devant les soldats britanniques, dans les camps militaires et dans les hôpitaux sous les bombardements. Il fait également son entrée à l'Orchestre Philharmonique de Londres sur les ondes de la BBC. Et après l'armistice, sa carrière va se lancer progressivement. En 1951, il passe le prestigieux concours Thibault. Parti favori, il termine 5e et pour cause, sa participation au concours est ébranlée par une polémique. Certains accusent le jeune artiste d'avoir volé un Stradivarius durant la guerre. Scandale lors de la finale et pas de succès pour Ivri Gitlis à la clé. Qu'importe, le violoniste est déjà vu comme un talent à Paris, tout comme aux États-Unis où il part se placer sous les ailes de Yascha Heifetz, un des plus grands instrumentistes de l'époque outre-Atlantique. C'est là qu'il découvre les tournées sous la coupe de George Schell et Eugène Ormandy. L'impresario Sol Urok, qu'il a aussi rencontré aux États-Unis, le pousse à enregistrer ses interprétations de grands concertos de Berg, Bartok et Sibelius, et il fait sensation sur les scènes américaines et s'impose petit à petit comme la référence du violon et des pièces instrumentales de son siècle. Ivri Gitlis rêve toujours de voyage. En 1963, il est le premier artiste israélien à se produire en URSS. De retour en Europe, il s'installe à nouveau à Paris. Sa carrière de soliste est lancée. Il joue désormais avec les plus grands orchestres, les plus grands chefs et dans les plus grandes salles de concert. À partir de là, tout le monde voudra programmer Ivri Gitlis, tout le monde, y compris en dehors du classique. Le musicien est approché par Brian Jones à la fin des années 60. Le fondateur des Rolling Stones veut prendre des cours de violon et pas avec n'importe qui. Ivri Gitlis accepte et il participe en 68 au Rock and Roll Circus, le show filmé du groupe britannique. Sur les bandes jamais diffusées, on le voit même violoniste jouer aux côtés de John Lennon et de Yoko Ono. Toute sa vie, Ivri Gitlis aura eu à cœur de conquérir de nouveaux publics, pas seulement les spectateurs des grandes salles de concert, le musicien est de plus en plus médiatisé à partir des années 70. Il participe notamment au Grand Échiquier de Jacques Chancel et est invité à l'une des émissions de Guy Lux avec Sheila et Claude François, durant laquelle il a joué un mouvement de concerto de Bach. Guy Lux joue même avec Michel Legrand, Barbara ou encore Michel Berger, preuve s'il en fallait qu'il sait s'adapter à tous les styles. Il popularise la musique classique, démocratise le violon et loue les créations de nombreux compositeurs contemporains. En 40 ans, Ivry Guy Lux apparaît sur grand écran. François Truffaut le fait jouer dans l'histoire d'Adèle H. en 1975. Pour tous les artistes qui lui ont été contemporains, Guy Lux était une source d'inspiration. Grâce à sa liberté et à sa personnalité unique, entre pédagogie bienveillante et humour de showman, il donnait confiance dans la possibilité de briser des systèmes. À l'époque d'Emmanuel André, qui ajoutait « Guy Lux a besoin des musiciens comme les musiciens ont besoin de lui, amoureux du jazz, de la pop, de la musique contemporaine, autant qu'il était de la musique classique. Il devient en 2008 parrain de l'association Inspiration. Son but, promouvoir la musique et rendre le classique accessible à tous, même aux gamins de petites villes de Palestine dont les rêves d'enfance exercent la fascination du monde entier pendant plus de 90 ans. »
Critique ma vie, mais on aime ma compagnie. À tout instant, mon cœur s'attache, mon cœur joue coche-coche. Même quand je n'ai pas un dollar, je chante et j'oublie mon cafard. On m'a surnommé l'Oriental, car moi je suis sentimental. Je suis sentimental et pourtant je ne fais pas de mal. On m'a surnommé l'Oriental. Chanson triste ou chanson gaie, moi je chante ce qu'il me plaît. C'est la musique qui m'affole, musique orientale ou espagnole. La chanson c'est comme l'amour, ça fait rêver la nuit, le jour. On m'a surnommé l'Oriental, tellement je suis sentimental. Et l'on m'appelle l'Oriental, le brun haut, regard fatal. Et l'on m'appelle l'Oriental, car moi je suis sentimental. Et pourtant je ne fais pas mal. On m'a surnommé
l'oriental.
Sachez que plus de 50 000 Israéliens se sont déjà rendus aux Émirats Arabes Unis depuis le récent pacte de normalisation entre Israël et les Émirats Arabes Unis, en tout cas selon un rapport publié cette semaine dans le Washington Post. Ce nombre est le résultat de seulement 2 semaines de vols commerciaux ouverts entre les pays qui ont accepté d'ouvrir les relations diplomatiques et touristiques dans un accord historique signé au mois d'août dernier. Des dizaines de milliers d'autres se sont également rendus durant les vacances de Hanouka. Le rapport indique également que le centre communautaire juif de Dubaï, la capitale des Émirats arabes unis, augmente son personnel à environ 30 employés et que près de 150 restaurants ont commencé à servir de la nourriture cachère. Le centre envisage de construire un mikvé conforme aux normes de luxe de Dubaï. Ce sera probablement le plus beau mikvé du monde, c'est ce qu'a déclaré en tout cas, et je veux bien le croire, le rabbin Mendel Dushman. L'accord de normalisation d'Israël avec les Émirats, qui a précédé d'autres accords signés avec Bahreïn, le Soudan et le Maroc, a été un moment décisif pour les relations de l'État juif avec le monde arabe. Je vous rappelle que jusqu'en août, Israël n'avait de relations formelles qu'avec 2 pays arabes, à savoir l'Égypte et la Jordanie.
Tzena el habustan Mor besamim ulevona Leragelech miftan Erev shel shoshanim Tzena el habustan Mor besamim ulevona Leragelech miftan Laila yored levat Beruach shoshan eino sheva Haba helchai shelach shir balat Zemer shel ahava Laila yored levat Beruach shoshan eino sheva Haba helchai shelach shir balat Zemer shel ahava Shachar homayona Roshech mahalet el alim Pich el haboker shoshana Ek tehefein ulim Shachar homayona Roshech mahalet el alim El haboker shoshana ektefeinu li Laila yored levat Veruach shoshan eino sheva Haba helcha shelach shir balat Zemer shel ahava Laila yored levat
Thank you.
Alors, nous avons successivement entendu le groupe Adoudaïm avec Erev Shelshanim. Et maintenant, nous avons retrouvé Giora Feidman à la clarinette avec Boublitchki. Voilà, et c'est ici que se termine cette émission découverte. J'espère qu'elle vous aura intéressé. En ce qui concerne la suite des programmes sur les ondes de Radio Judaïka, place aux infos dans quelques instants. Alors, quant à moi, je vous retrouverai bien sûr vendredi prochain, même heure, même chaîne. Je vous rappelle que cette émission est rediffusée le dimanche de 18 à 19 heures et le lundi de 15 à 16 heures. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite un Guit Shabbos, Shabbat Shalom et passez une très bonne semaine en faisant bien sûr bien attention à vous.
Découverte, découverte. Aviva Belef en votre compagnie, avec rien que de bonnes nouvelles en provenant d'Israël et du monde juif, mais pas seulement de bonnes nouvelles, également de la bonne musique et des invités.
Judaïka, 90.2 FM.